chose pour, ma, pour la première fois, la Sainte Cène, c'est une bénédiction pour l'Église. Le Seigneur l'a instauré pour nous faire du bien, afin qu'on n'oublie pas, parce qu'on oublie facilement. Et parce qu'on oublie facilement, c'est bien de le prendre chaque semaine. Il y a des gens qui le prennent tous les jours. Il y a des églises qui ont commencé à prendre la Sainte Cène une fois par semaine, et après, une fois par mois, et après cela, il y a des églises qui ne prennent plus. Mais il faut savoir que la Sainte Cène est une bénédiction, pas seulement parce qu'on se souvient du passé, ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, mais c'est aussi une bénédiction pour notre corps, parce qu'il y a des guérisons pendant la Sainte Cène. Il y a même des gens qui sont morts parce qu'ils ont pris la Sainte Cène indignement. C'est une chose importante, il faut le savoir. La Sainte Cène, c'est un moyen de délivrance et de guérison. Quand on le prend au nom du Seigneur Jésus et sérieusement, et quand on discerne le corps, et le corps ce n'est pas seulement le corps de Jésus, mais c'est le corps aussi de tous les membres, frères et sœurs de l'Église. Il faut discerner, parce que dans l'Église de Corinthe, il y avait des gens qui prennent la Sainte Cène, mais avant cela, ils mangeaient beaucoup, ils buvaient beaucoup, ils étaient ivres avant de prendre la Sainte Cène. Ça ne se fait jamais en France, parce qu'on ne boit pas si tôt. Maintenant, j'aimerais vous donner un message ce matin. J'aimerais vous donner un message, encore sur la volonté de Dieu, c'est le cinquième, je pense. Et le titre de mon message, c'est « Connaître la volonté de Dieu par des passages bibliques ». Par les versets bibliques. Donc ça, c'est le titre de mon message. Déjà, j'ai donné des messages sur connaître la volonté de Dieu par les rencontres divines. C'est en avril. Par les songes, c'était en mai. Par les pensées renouvelées, c'était en août. Et par les dons spirituels, c'était en septembre. On est maintenant fin octobre. Ça va vite. Bientôt, ce sera mon anniversaire. Le 26 décembre, pour ceux qui pensent à ça. C'est le jour après Noël. Jésus d'abord, 25, après c'est John. Alors, le titre « Connaître la volonté de Dieu par des passages bibliques ». Mon message sera plus court que les autres. Parce qu'ils avaient 4 feuilles et je prends seulement une feuille et demie. Comme ça, vous êtes au courant. Si vous ouvrez mon cœur. Et puis, sous-titre pour mon message, c'est « Notre Dieu nous parle aujourd'hui ». Pour être vraiment comme il faut, c'est rare que je prenne ça, mais je prends ma montre. Parce qu'aujourd'hui, on vit une heure de plus. Un petit peu, ça change. Alors, comme introduction, nous le savons tous, mais je vous rappelle quand même, nous savons que la vie chrétienne n'est pas un pique-nique. La vie chrétienne n'est pas un lit de roses, mais c'est un combat et Dieu nous donne une armure pour se défendre. Où est-ce qu'on trouve ça? Dieu nous donne une armure pour se défendre, c'est en Éphésiens chapitre 6, bien sûr, tout le monde le sait. Vous ne le dites pas parce que vous le savez déjà, bien sûr. Donc en Éphésiens 6, on trouve que Dieu nous a donné une armure pour nous protéger et nous donner seulement une épée pour attaquer et pour se défendre. Éphésiens 6, on trouve une arme pour attaquer et pour se défendre. Alors, j'ai oublié quelque chose ce matin. Pardonne-moi, s'il vous plaît, de fond de votre cœur, de mon cœur. Je n'ai pas donné une feuille. J'avais une feuille pour... que les versets se mettent sur le mur. Merci beaucoup, ma petite sœur que j'aime. Tu peux donner ça peut-être à Rémi. On peut le mettre un petit peu en retard. Mais ça, c'est John. Donc, en Éphésiens 6, 17, il y a l'apôtre Paul qui dit aux chrétiens à Éphèse, « Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alors, il faut savoir qu'Éphèse, c'était une grande ville. Je l'ai lu encore ce matin avant de venir ici. C'était une ville qui était la capitale. C'était une ville importante. C'était près de la mer.
C'est une ville très fameuse et connue pour la statue d'Artémis. C'est Artémis. Le temple d'Artémis existe toujours en ruine. Nous l'avons visité, Beryl et moi, nous étions là à Éphèse il y a quelques années. C'est maintenant en Turquie. Il y a une bibliothèque, c'est la bibliothèque de Celsius qui existe encore en ruine. Toute la ruine, même sans les ruines, c'est une ville merveilleuse à visiter, encore quand le soleil brille, bien sûr. Et il paraît que la ville a été décimée parce qu'il y avait des tremblements de terre. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont morts par une maladie qui s'appelle la maladie de malaria. Beaucoup de gens sont morts, donc la ville a décliné complètement. Mais c'était une ville importante, avec beaucoup de résistance, beaucoup d'occultisme aussi. Beaucoup de résistance aussi. Mais il y a des gens qui sont nés de nouveau, qui sont devenus chrétiens. Et il faut, si vous avez le temps, il faut lire toute l'épître de Paul et adresser aux chrétiens à Éphèse. Quand moi je voyage, de temps en temps, je dois voir mon médecin. J'ai toujours quelque chose sur moi, dans ma poche souvent. C'est le petit Nouveau Testament de Gédéon. Et quand je devais attendre, souvent il faut attendre longtemps parce que c'est la salle d'attente. Il faut attendre. Donc quand on est là, j'ai lu tous les 6 chapitres d'Éphèse dans la salle d'attente. Donc ce n'est pas pour rien, je ne perds pas mon temps. Et ça commence en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, chapitre 1. Mais le dernier chapitre, c'est le chapitre vraiment de la lutte, du combat. Donc, prenez l'épée de l'esprit, il faut le prendre. Dieu l'offre, mais c'est à nous de le prendre. Par exemple, Dieu dit à Josué, « Oui, mon fils, prends courage, fortifie-toi et prends courage. » Dieu veut donner du courage, mais c'est à nous de le prendre. Et ici aussi, c'est donc, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors ce matin, donc, surtout, l'esprit de Dieu est là pour nous aider, pour comprendre la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? On ne peut pas comprendre la parole de Dieu sans l'esprit de Dieu. Et la parole de Dieu. Alors il y a deux mots, il faut ça, pour ceux qui prennent les notes, il y a deux mots différents pour la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Il y a la parole de Dieu, parole logos. Ça veut dire tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est le logos de Dieu. On ne trouve ça par exemple le mot log, prologue. Log, ça veut dire, logos, ça veut dire parole. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est logos. Mais il y a un autre mot, un deuxième mot, c'est le mot rhéma. Et quand il y a un passage ou un verset de la Bible qui vous parle vraiment par le Saint-Esprit à votre cœur, juste pour vous, ça c'est le rhéma de Dieu. R-H-E-M-A. Donc il y a le logos, tout est écrit, parole de Dieu, Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais il y a aussi le rhéma. Alors je vais vous donner quelques exemples, un exemple biblique, une expérience de Jésus. N'oubliez pas donc, le rhéma c'est une parole pour vous à une certaine occasion dans votre vie. Et ici nous trouvons Jésus dans je crois Matthieu, mais aussi Luc je crois, et Marc aussi. On parle de Jésus qui a été baptisé par Jean-Baptiste. Rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Alors, après cela... Il est amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. C'est fort, hein? Et quand il était dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours. Moi, j'ai aussi jeûné, mais jamais 40 jours. Je ne serais pas là, je pense. Mais Jésus a jeûné 40 jours et il avait faim. Parce qu'il est le Fils de Dieu, mais aussi Fils de l'homme. Il a souffert comme nous aussi pouvons souffrir quand on n'a pas mangé pendant longtemps. Et il y avait des petits cailloux, je crois, en forme de petits pains. Et il les a vus. Et Satan, le diable est venu, le tentateur. Il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ces petites pierres qui sont rondes, tu peux les changer, tu as faim. Alors change. Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? Mais le diable, il est rusé. Il a continué deuxième fois. Ensuite, Satan tente Jésus une deuxième fois. Et qu'est-ce qu'il dit? Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bois, car il est écrit. Jésus a dit, il est écrit, de première fois, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Maintenant, le diable vient et dit, il est aussi écrit. Parfois, le diable vient, même avec des passages bibliques, il est rusé. Et parfois, il faut faire attention, quand il y a un verset que vous lisez, est-ce que c'est le diable qui vous le dit ou est-ce que c'est Dieu qui le dit? Ça, c'est une chose intéressante. Même le diable peut citer la parole de Dieu. Intéressant, hein? Il y a des gens, des sectes qui existent, qui ont la Bible plus. Et ils peuvent venir à la porte, témoins de Jéhovah, Mormon, ils viennent aussi avec des passages bibliques. Mais parfois, ça, ce n'est pas Dieu qui parle, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est eux qui parlent. Donc, tout dépend. Le diable, qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus répond, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Intéressant. Troisièmement, parce que le diable, il est rusé et il est persévérant. Finalement, Satan va tenter Jésus une troisième fois. Qu'est-ce qu'il dit? Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa. Toutes ces trois réponses de Jésus se trouvent où? Intéressant, c'est regardé. Quand Jésus a répondu trois fois de suite, j'ai trouvé ces versets la semaine passée. On trouve ça dans un livre, dans deux chapitres, tout éloigné, tout près, tout proche. Toutes ces trois réponses de Jésus se trouvent en Deutéronome, chapitre 6 et chapitre 8. C'est seulement pour nommer, parce que moi je ne vais pas le lire, parce qu'on a lu déjà la réponse de Jésus. On le trouve en Deutéronome, chapitre 6, versets 3 et 8, et Deutéronome 8, verset 3. Ça vient d'un livre, deux chapitres tout proches. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, qu'en Éphésiens 6, avant que Jésus, que l'apôtre Paul parle de l'armure et de l'épée, il parle « Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous savez que l'armure et l'épée pesa probablement 30, 40 kilos déjà. Et il y avait aussi un sac à dos que les soldats devaient prendre aussi, encore 20 kilos. Ils avaient environ 50 kilos pour se battre. 50, 60 kilos. C'est beaucoup. Et avant de se battre, il devait être en forme. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et j'étais toujours sur Éphésiens 6, verset 10, mais je ne l'ai pas donné sur ma feuille. Éphésiens 6, verset 10 dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et le mot qui est employé, c'est le mot dynamite, dynamis en grec. Dieu veut nous donner la dynamite pour faire sauter les attaques du diable. Pour être délivré. Et j'aime beaucoup ce chant qu'on vient de chanter, Jean-Luc. Libéré de nos chaînes. Vraiment, c'est un chant inspiré. Il y a des chants qui ne sont pas toujours inspirés, mais c'est vraiment, on a besoin d'être délivré. Alléluia. Alléluia. Alors, juste une considération importante. Il y a donc la nécessité de se fortifier dans le Seigneur avant le combat. Alors, je me suis posé deux questions. Comment et quand? D'abord, comment? Comment se fortifier dans le Seigneur? Moi, je pense par la lecture régulière de la parole de Dieu. Même chez les médecins dans la salle d'attente, je ne sais pas. On peut le faire toujours. Souvent, j'ai pris des moments qu'on ne peut pas bouger, on attend quelqu'un. lire la parole de Dieu. Je ne perds pas mon temps. Lire la parole de Dieu et apprendre par cœur la parole de Dieu. Et vous savez, quand nous sommes arrivés en France, c'était en 1962. Pas 1800, 1900. 1962. Et dans les colonies de vacances et dans les camps de jeunes, souvent on avait des haut-parleurs, je veux dire les orateurs, mais j'ai des haut-parleurs parfois. Alors il y a des gens qui donnaient des messages, et il y avait souvent un verset clé. Et dans la première colonie qu'on a fait, il y avait, je crois, 10 versets importants, et on les a mis en musique. C'est en 62, mois de juin, juillet, août. Et ensuite, c'est au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, massif central, à 1000 mètres. Il faisait 40 degrés, 45 degrés en été, moins 25 en hiver. On a vécu là toute une année, donc on sait, au Chambon-sur-Lignon, nous avons vécu là, et je pense que c'était toujours partout en France, mais c'est pas là. C'était 60 degrés d'écart l'été et l'hiver. 45 degrés, moins 15, moins 25, il faisait froid parfois. Et de la neige. Et puis, donc en 62, quand nous sommes arrivés, j'ai noté ces versets de la Bible, je les ai mis en musique. Et la même année, en décembre, Berry et moi, nous avons fait notre premier CD, avec 10 chants, donc enregistrés à Paris, avec une chorale de jeunes, et avec de la flûte, avec du piano. Et c'est Berry qui a dirigé le premier CD. Après cela, on a fait une CD à Saint-Étienne, on a fait deux CD à Genève, et puis j'ai mis en musique 133 passages de la Bible qui se trouvent dans notre livre Chantons la Bible. On ne le trouve plus du tout parce que c'est une antiquité. C'est vraiment. Chantons la Bible. C'est vrai, il faut bien rire. Mais donc, il y a des passages de la Bible qui sont dedans. En tout, j'ai mis environ 300 passages, versets de la Bible en musique. Et quand on le met en musique, ça reste. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné, que je n'avais pas vu depuis 40 ans peut-être, 50 ans. Et c'est quelqu'un qui m'était en retraité. Il était dans un camp de jeunes. Il dit, John, je te téléphone. C'était vraiment difficile de trouver ton adresse et ton numéro de téléphone. Mais il a bénéficié encore de ces versets qu'on a chantés. Parce qu'on oublie beaucoup de choses. J'oublie parfois les messages, mais je n'oublie pas les chants qu'on chante. Il y a des chants qui nous marquent. Ça doit être comme ça. Et donc, il y a des versets de la Bible que j'ai mis en musique qui sont là dans ce livre. Seulement, il n'y en a plus. Ça doit coûter peut-être 200-300 euros maintenant parce que c'est une antiquité. Alors, comment se fortifier dans le Seigneur? Par la lecture et en apprenant la parole de Dieu par cœur. J'ai été pendant 10-12 ans, j'ai été professeur à l'école publique. J'ai enseigné, j'avais demandé des jeunes, j'ai dit, mais je vais vous donner juste 2-3 versets. 1 Jean chapitre 5, versets 11, 12, 13. Pour la semaine prochaine, vous allez apprendre ça par cœur. Que pensez-vous? Peut-être 1 ou 2 sur 30. Les gens ne savent plus apprendre par cœur. C'est très difficile. Et surtout le verset 13, où Jean dit, si vous écrivez ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On peut savoir d'avoir la vie éternelle, c'est écrit dans la parole de Dieu. Apprenez ça par cœur. La semaine prochaine, que pensez-vous? 2 ou 3. Nous avons vécu 83 rue de Cinq-Voies à Tourcoing. Tourcoing, c'est une ville intéressante, mais il y a de moins en moins de magasins au centre. Ça devient une ville morte. Je l'ai constaté encore la semaine passée. Mais quand nous étions là, il y avait encore Monoprix au centre de Tourcoing. Ça existait maintenant, tout cela, on est en train de changer. Alors, à côté de notre maison, 83, il y avait 81. C'est normalement, c'est comme ça en France. 81, 83, 85. Et il y a une petite fille qui avait 12, 13 ans, peut-être 14 ans, Fatima. C'est une famille algérienne qui habite là, en haut, juste à côté de notre maison. Et un jour, Beryl et moi, nous avons eu l'idée de distribuer des évangiles de Marc dans le quartier. Peut-être 200, 300 maisons. Et un jour, peut-être 3-4 semaines plus tard, Fatima, elle m'a vu dans la rue, elle dit, monsieur, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Je n'ai jamais entendu ça, ni avant, ni après. Est-ce que vous pouvez m'évangéliser? C'est ce qu'elle a dit. J'ai dit, alors, j'ai parlé avec elle, elle dit, vous avez donné l'évangile selon Marc. Moi, je l'ai lu. Je l'ai invité à la maison, Beryl et moi, et Fatima, nous étions ensemble, fille de 13 et 14 ans. Je dis, mais alors, est-ce que tu as lu? Elle dit, je n'ai pas lu seulement, je l'ai appris par cœur. Elle connaissait tout le livre de Marc par cœur. Une fille qui n'est pas chrétienne, qui a lu l'évangile de Marc et qui l'a appris par cœur. Et je demande aux jeunes chrétiens, école biblique, pour apprendre par cœur 3 versets. Une fille que je n'ai pas demandé, une fille de 15-16 ans, elle apprend par cœur tous les évangiles. Je dis, mais commençons avec le chapitre 1, Fatima. Elle a donné, elle a prononcé les mots, elle a cité le chapitre 1 de Marc par cœur. Je dis, commençons avec le chapitre 1. Et moi, j'ai été ébloui. Je dis, et nous, chrétiens, pour apprendre par cœur. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si on ne connaît pas par cœur les versets clés, que voulez-vous? On sera attaqué. On ne sait pas comment répondre. Comment se fortifier dans le Seigneur? Par la lecture et apprenant par cœur la parole de Dieu, les versets clés. Alors je me suis posé une deuxième question. Quand il faut se fortifier dans le Seigneur? Alors je vous donne la réponse. Moi, je pense qu'il faut le faire par le culte personnel, le matin au plus tard, et par la méditation jour et nuit. En tout cas, par la parole de Dieu. Exemple de Jésus. Je crois que Jésus a appris par cœur de grands morceaux de la Bible, de l'Ancien Testament, tôt le matin quand il cherchait une communion intime avec son Père. Il se leva tôt, il parle avec son Père le matin, et je pense souvent qu'il a pris le temps pour apprendre par cœur des versets de l'Ancien Testament. Et quand il y avait Satan qui l'a attaqué, il pouvait citer les versets en chapitre 6 et 8 de Deutéronome. C'est un exemple pour moi parce que j'étais fils de Dieu, mais aussi fils de l'homme. Et c'est une chose qui m'a aidé d'apprendre par cœur. Et vous savez, pour moi-même, personnellement, souvent le Seigneur me parle pendant la nuit et il me donne des versets ou des passages bibliques. Et je commence à comprendre pendant la nuit ce que j'ai appris déjà il y a 20 ou 30 ans. Ce n'est pas le temps perdu. De temps en temps, je ne peux pas dormir. Et il y a des choses, pendant la journée, il y a un verset qui revient et ça revient. Méditer, ça veut dire tu rumines comme une vache. Mais c'est vrai. La même chose revient et tu rumines. Ça, c'est méditer. Et tu comprends le mot ruminer, ça veut dire méditer. Intéressant. Alors après cela, ça continuait encore longtemps et j'ai barré, autrement mon message sera jusqu'à minuit. Et j'ai dit non, John, 25-27 minutes peut-être et ça suffit. Et ça suffit. Ensuite, alors j'ai eu quelques versets bibliques que j'ai reçus pour la direction de Dieu. Il y a un principe, j'ai mis en musique un verset en anglais, et puis en français, en irlandais aussi, dans ma langue maternelle. C'est le psaume 119, verset 105. Vous ne le connaissez pas cœur, certainement. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Principe intéressant de la volonté de Dieu. Une lampe à mes pieds, ça veut dire Dieu nous dirige pour le présent, ici, maintenant. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il donne aussi la direction quand tu marches pour voir plus loin. Pour maintenant, et parfois le verset pour plus loin. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous connaissez ce verset par cœur, bien sûr. Oh, sûr. Vous êtes beau et intelligent. Ouais. Intéressant comme sujet, intéressant comme principe. Ta parole est une lampe à mes pieds, Seigneur, une lampe à mes pieds. Lumière sur mon sentier. Alors, je vous donne juste 3 petits exemples pour terminer mon message. J'ai presque terminé. Quand j'étais jeune et beau. Ah, beau. J'ai été plus dynamique qu'aujourd'hui, certainement. Alors, il y a, dans ce groupe de jeunes, je suis arrivé à un groupe de jeunes quand j'avais 21 ans, pour la première fois. Je me suis converti la première fois quand j'ai mis les pieds dans un groupe de jeunes. On a annoncé l'évangile et je me suis converti. Première fois que je suis arrivé. Et je pensais que c'était toujours comme ça. Ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des gens qui viennent dans l'église, peut-être 10, 15, 20 ans, ils ne sont jamais convertis. Ça ne veut pas dire que parce que tu es membre d'une église ou tu vas dans une église que tu es converti. Tu peux dormir dans un garage pendant longtemps, mais tu ne viens pas une voiture. Mais c'est la vérité. C'est comme ça. Alors, quand je me suis converti, je suis allé au groupe de jeunes tous les samedis. Si j'étais grippé ou si j'étais malade ou pas malade, moi j'allais à l'église, j'allais le samedi. Rien qui me retenait. Et un jour, il y a un jeune qui est venu, Frans van Dijk, je me souviens encore. Il allait à l'école biblique de Bruxelles. Et il a dit dans cette école biblique combien il était joyeux et heureux d'apprendre la parole de Dieu et de se préparer pour le service du Seigneur. Et il s'est assis. Et après, immédiatement après, il s'est mis debout. Il dit, ah oui, j'ai encore oublié quelque chose. C'est le psaume 100, verset 2. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec un long visage. Mais non, avec joie. Et le garçon, il était rayonnant. Il était joyeux. Je dis, Seigneur, c'est ça que je veux. J'aimerais te servir plus tard comme lui. Il était un exemple pour moi. Et il est devenu directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible à Bruxelles. Je me souviens encore. Alors lui, il a semé dans mon cœur le désir de servir le Seigneur en plein temps. J'avais vraiment ce désir. Je dis, mais je veux me préparer aussi. C'est le psaume 100, verset 2. J'avais vraiment l'envie dans mon cœur d'aller à l'école biblique pour apprendre vraiment, approfondir la parole de Dieu. Ensuite, plus tard, une année, deux années plus tard, on m'a demandé de servir comme moniteur dans une colonie de vacances chrétienne en Friesland, dans le nord de la Hollande, Pays-Bas. Et j'étais là, et un de ces derniers jours-là, je crois qu'on était deux, trois semaines, c'était des enfants qui chantaient, et souvent le Seigneur peut nous parler par les chants. Jacques, c'est pas pour rien que tu composes. C'est pas pour les prunes. C'est pour les Français. Quand il y a des chants, le Seigneur peut nous parler par les chants. Et dans ce chant, il y avait un verset biblique. C'est intéressant. C'est Ésaïe 6, verset 8. Rémi, merci de ce que tu es là. Merci pour ta patience et ton amour pour moi. Ésaïe 6, verset 8. Et on le chantait. Et il chantait de nouveau. Et je crois que c'était une des dernières soirées quand on chante ce chant basé sur la parole de Dieu. Et dans ce chant, il y avait ces paroles. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et quand on a chanté ce chant m'a touché profondément. Je dis, Seigneur, maintenant le moment est venu. Je veux quitter mon métier. J'étais radiotélégraphiste, j'étais en télécommunication à Amsterdam. J'ai travaillé là pendant des années. Le moment est venu maintenant pour dire que je pars et je veux me préparer pour aller à l'école biblique à Bruxelles. Donc j'avais l'envie d'abord par un verset de la Bible. Psaume 100, verset 2. Et ensuite, le Seigneur m'a parlé par Ésaïe 6, verset 8. Toujours pas le verset de la Bible. Je sais que ça veut dire être dirigé par la parole de Dieu. D'abord, j'avais l'envie, et après cela, le Seigneur me dit quand. Ça, c'est intéressant. De temps en temps, on a envie, mais on ne sait pas encore le moment. Et le Seigneur ouvre des portes. Ça peut être pour déménager vers une autre maison, que le Seigneur ouvre une porte pour nous. Et priez pour cela, Seigneur. Je sens que ça, j'aimerais bien un changement. Mais dis-moi comment et quand. Est-ce que vous êtes d'accord jusque maintenant? Non, il n'y a personne qui dort, ça va encore. Mais c'est bien. Non, c'est important. Et puis après cela, donc, le Seigneur m'a dirigé de faire connaître Béryl. Et le Seigneur nous a donné un troisième, beaucoup de versets nous ont mis. Mais je donne encore un verset afin de conclure, parce que la conclusion est tout près, encore 5 minutes. Psaume 48, verset 15. Et le Seigneur nous a donné à Béryl et moi ce verset merveilleux sur la direction de Dieu. Est-ce que vous le connaissez? Sans connaître, sans lire. Psaume 48, verset 15, c'est le dernier verset de 48. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il, Dieu, sera notre guide jusqu'à la mort. C'est un beau verset, hein? Je le relis. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Vous pouvez compter sur le Seigneur pour être votre guide. Moi, je pense la direction de Dieu pour tous. Et je l'ai dit ici, je le redis, il y a des gens qui sont dans le même métier pour 30, 40, 50 ans. Il faut le faire. Il y a d'autres qui changent 10 fois. 10 fois, peut-être en 2 ans. Si le Seigneur dirige comme ça, ce n'est pas à nous de juger les autres. Mais on a besoin du courage, on a besoin de persévérance, on a besoin de savoir ce que le Seigneur veut pour nous. Vous êtes d'accord? Nous devons savoir ce que le Seigneur veut. On a seulement une vie, et souvent il y avait des chants aussi, ça existe. C'est seulement une vie, et je veux le vivre par Jésus et pour Jésus. Il y a des gens qui veulent vivre pour Dieu. C'était dans mes notes avant. Pour Dieu, mais ils ne savent pas vivre par le Saint-Esprit, par Dieu. Et si c'est pour Dieu et pas par Dieu, vous allez vous fatiguer. Ce Dieu est notre Dieu. Mon Dieu a été bon pour nous. Il a ouvert des portes, il a aussi fermé des portes. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je me suis posé la question, mais John, quand est-ce que toi tu as, cette semaine, quand est-ce que toi tu as employé l'épée, la parole de Dieu? Et peut-être vous pouvez dire, il y a des gens ici peut-être qui se posent la question, quand est-ce que moi j'ai employé la parole de Dieu comme épée? Et c'était difficile au début, et après cela, le Seigneur a ouvert mes yeux, et je vous le dis devant vous, parce que le Seigneur m'a montré clairement, il y avait des moments dans ma vie qu'il y avait des gens autour de moi, et je servais le Seigneur avec eux. De temps en temps, il y avait des amis, je pense que c'était des vrais amis, qu'on peut compter dessus. Et le Seigneur m'a dit, c'est pas bien. Certains gens dans ma vie, il y en a tout un tas dans un sens, et je ne dirai jamais le nom, j'ai appris cette semaine, il ne faut pas faire ça. Mais il y a des gens dans ma vie qui ont eu un esprit de contrôle. Et le Seigneur m'a montré, l'épée est là pour couper les mauvais liens. Il y a de temps en temps des gens autour de nous, on a mis toute notre confiance et après cela, c'est un esprit de contrôle qui est venu. Et le Seigneur me dit, libre de mes chaînes, je veux marcher vers toi. Je me laisse enchaîner par qui que ce soit. Donc, c'est une façon de dire, mais pour moi, le Seigneur m'a montré, l'épée était pour couper certains liens dans ma vie. Même dans ma famille. De temps en temps, je recevais des lettres de ma mère qui concernent ma fille. Ta fille ne fait pas ceci, ta fille ne fait pas cela. Pour moi d'intervenir, pour une fille qui avait 23, 24 ans, qui est adulte. Et moi je recevais des lettres, et Béryl le sait, et moi j'étais en train de pleurer dans la cuisine. Béryl dit, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, mais je viens de recevoir une lettre de ma maman. Alors tu pleures parce que tu reçois une lettre de maman. Elle voulait que moi j'intervienne pour changer ma fille. Je ne peux pas. Il faut couper. Couper de temps en temps, même dans la famille, de temps en temps, des influences qui ne sont pas selon Dieu. Le Seigneur me l'a montré cette semaine. Si vous avez l'épée de l'esprit, de temps en temps, il y a des choses qui sont dans notre vie. Ça peut être une habitude, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être des gens. Il faut couper. Et c'est la fin de mon message. Il faut couper de temps en temps. Conclusion. Je vous donne un verset pour conclure. Et c'est un verset qui me fait un grand bien. Merci Jacques. Tu es vraiment l'homme à l'heure. Il est en train de changer l'heure. Tu vois, je crois que j'ai donné un message qui a duré 23 minutes et demie. Conclusion, Jean 10, verset 27-28, Rémi, si tu veux. Et ça, Jésus qui parle justement de la direction de Dieu. Et il dit quelque chose pour vous et moi. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. C'est merveilleux. Alléluia. Vous trouvez ça, c'est merveilleux, c'est la direction de Dieu. C'est à nous d'écouter ce que le Seigneur dit et nous le suivons. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Nous avons entendu Beryl et moi dans une ville loin d'ici. C'est une ville qui s'appelle Funchal. C'est la capitale de quoi ? Funchal, c'est la capitale de Madère. Nous étions à Madère et nous avons entendu un pasteur qui était berger avant. Et il a dit, je ne l'ai jamais oublié, il dit, vous pouvez penser que toutes ces brebis qu'on voyait sont tous pareilles. Pour un berger, il connaît tous les visages de bergers, de brebis, et ils ont tous un nom différent, et moi je les connais par nom. Le Seigneur nous connaît. Nous ne faisons pas de distinction entre les gens, mais le Seigneur nous connaît. Notre cœur, il te connaît. Il te connaît, il me connaît. Et le Seigneur me parle ce matin, et ça c'est la conclusion de mon message. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si vous êtes vraiment brebis du Seigneur, vous avez un désir de plaire au Seigneur, de connaître sa volonté, et il est patient avec vous, il est doux avec vous. Mais il veut aussi que vous employiez ce qu'il vous donne. Il vous donne l'épée de l'esprit. Employez-le. De temps en temps, vous êtes tenté, employez-le. Le Seigneur Jésus, il a répondu. Et moi, je veux répondre aussi, Seigneur, je suis là. On va prier. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie de ce que tu es patient avec nous. Je te remercie pour les portes ouvertes et je te remercie aussi pour les portes fermées. Je te remercie, Seigneur, pour chacun, chacune ici, parce que tu nous as mis ensemble dans une même église. Seigneur, pour te glorifier et pour être à toi et pour être dirigé par toi. Merci pour la vie que nous avons menée jusqu'à maintenant. Seigneur, tu nous vois ce matin, nous voulons te plaire. Est-ce que vous voulez plaire au Seigneur?
Oui.
J'espère. De tout cœur. Seigneur, nous voulons te plaire. Nous voulons connaître ta volonté. Révèle-toi. Et merci, tu le feras. Alléluia. Gloire à ton nom. Amen. Soyez bénis. Amen.